Alors, qui d'entre nous n'a pas connu d'épreuve? Qui n'a pas connu de tentation? Et est-ce que Dieu peut nous comprendre quand on est dans les épreuves ou quand on est tenté? Est-ce que Dieu peut nous aider? La réponse, vous le savez, c'est oui, bien sûr, Jésus. En Jésus, Dieu peut nous comprendre et nous aider. En Hébreux 12, 18, par rapport au Seigneur, ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et c'est sur ces paroles que je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 4. Luc 4. Donc la dernière fois, on avait vu le baptême de Jésus. Et là, c'est la suite. Luc chapitre 4, on va lire du verset 1 au verset 13. Luc 4, verset 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oui Seigneur, merci pour la narration de ce épisode de la vie de Jésus que nous reporte ta parole, la parole de Dieu. Merci Seigneur de nous aider à nous en approprier pour les besoins que nous avons aujourd'hui et les besoins que nous avons dans notre Église, dans nos vies personnelles, Seigneur. Merci que cela puisse contribuer à nous faire remporter des victoires, comme Jésus a remporté la victoire ici. Il n'a pas cédé à la tentation. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que nous avons ce matin de découvrir ce texte ensemble. Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Alors, notre texte commence par la mise à l'épreuve, versets 1 et 2. Jésus rempli du Saint-Esprit, je relis, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. L'épreuve et la tentation, c'est le même mot dans le Nouveau Testament grec. C'est un même mot grec qui veut dire l'un et l'autre, il a les deux sens. Et donc là, on peut facilement lui donner les deux sens d'épreuve ou de tentation. Une mise à l'épreuve. Qu'est-ce que c'est une mise à l'épreuve? Pour nous, je vais prendre une illustration avec Les bouteilles de gaz qu'on utilise, est-ce que vous avez déjà utilisé des bouteilles de gaz? On les remplit de gaz, le gaz est un liquide très dangereux. Et la bouteille, eh ben, elle doit être éprouvée. On doit être sûr qu'elle va pas fuir, qu'elle va pas exploser quand elle aura un choc, qu'elle va pas fuir quand elle sera installée dans la maison sous l'évier ou là où elle va réchauffer le servir à faire faire cuire les aliments. Et pour ça donc on la met quand elle a été construite, on la met sous pression, on la remplit, on la gonfle et on regarde, on la met 10 fois ce qu'elle doit résister et on regarde si tout se passe bien. Et on peut dire après, elle est éprouvée. Et plusieurs fois dans le cycle de vie de la bouteille, toutes les bouteilles sont numérotées, on les suit et on va pouvoir les tester régulièrement. Le Seigneur a été éprouvé 40 jours. Il a été conduit dans le désert. 40 jours, c'est le chiffre de l'épreuve, hein. Et c'est long. On connaît un petit peu les autres chiffres. Il y a les chiffres symboliques. Il y a le 3, il y a le 4, il y a le 7, et il y a le 12. Et puis il y a le 40. C'est vraiment une longue période. Mais c'est un chiffre qui se termine quand même. Alors nous, en tant que disciples, aussi, nous devons être comme le Seigneur Jésus, éprouvés, pour être des bons témoins de Jésus-Christ. Et les épreuves, le passage à l'épreuve, c'est pas facile. On peut l'être d'une multitude de manières. Si vous connaissez Jean-Pierre Castelnau, il y a quelques-uns parmi nous qui le connaissent, et je l'ai eu au téléphone depuis ces 15 derniers jours, parce qu'il a un problème de cœur. Alors au début, c'était que le cœur, il était très très fatigué et ils se sont aperçus qu'il y avait son cœur qui tantôt il battait vite, tantôt il battait lentement. Et le cardiologue a dit pas de problème, c'est un petit truc qu'il faut aller cautériser. Vous inquiétez pas, rentrez chez vous, ce sera une petite opération, on va programmer ça et puis tout rentrera dans l'ordre à 90%, 95%, c'est ça, il y a pas de problème. Et Jean-Pierre est revenu rassuré à la maison, et puis non, ça allait pas du tout. Il a dû de nouveau quelques jours après se faire hospitaliser. Il arrivait pas du tout à avoir de force pour s'assumer au quotidien. Et là, voilà, de nouveau, on va poser des sphincters là, des petits ressorts. Ouais, on va faire ça, et puis ça ira. Et puis donc, ça c'est une opération bénigne. Et puis voilà, et ben non, c'était toujours le problème demeuré pour lui. Et puis on lui a dit fin de semaine dernière, il faut mettre une pile, on va mettre une pile. Ah ben là, ça devient déjà beaucoup plus sérieux. Et on l'a rassuré, bien sûr, comme d'habitude. Et tout ce temps-là, Jean-Pierre disait, moi je suis tranquille, je sais où je vais, je suis en paix, je sais où je vais, mais quand même, chaque fois, il voit une difficulté de plus, une difficulté de plus. Et il sait pas où ça va s'arrêter, son problème de faiblesse, de problème cardiaque. Il sait plus où ça va s'arrêter. Et il dit, il comprend que Dieu lui parle à travers ça. Et il sait qu'il va ressortir de là en étant une personne qui est différente. On appelle ça des fois les traversées du désert, quand on est dans une période où Dieu nous met à part. Où on va être soumis à l'épreuve. C'est une réalité pour tout le monde, même les personnes qui sont pas croyantes font des fois cette expérience et ont leur vie qui se voit transformée par une épreuve qu'ils ont subie. Il n'est aucune épreuve qui n'ait été humaine, nous dit la parole de Dieu en 1 Corinthiens 10, 13. Et Dieu ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve et la tentation, il permet aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 3 points importants dans notre texte. Cela se situe après le baptême de Jésus. Et il est également conduit par le Saint-Esprit dans le désert. C'est l'Esprit Saint qui va l'amener dans le désert, et là, dans le désert, il va rien avoir à manger. Il n'est pas dit que c'est Jésus qui fasse un jeûne. Il est dit qu'il est conduit dans le désert pendant 40 jours, le désert, il n'y a rien. Et là, il a faim. Il a faim. La mise à l'épreuve n'est pas désagréable et c'est pas quelque chose qui est maîtrisé. C'est quelque chose qui est imposé. Et là, il est tenté par le diable dans ces conditions-là. Le diable, c'est le calomniateur. C'est Satan, c'est le méchant, c'est le mauvais. C'est notre ennemi, l'auteur du mal. Celui qui veut nous éloigner de Dieu. Et Dieu, on voit que Dieu a la liberté d'utiliser Satan pour nous éprouver. C'est pas nouveau, dans le livre de Job, on trouve la même chose. Il y a toutes sortes de façons de nous éprouver. Des fois, le Seigneur peut utiliser nos frères et sœurs. Aussi, c'est arrivé à Job avec ses amis. Il peut utiliser aussi des petits microbes. Dernièrement, le monde entier a été éprouvé avec l'arrivée du Covid-19. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons éprouvés, tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il permet aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Et Jésus nous a appris à prier. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. La tentation est pas, l'épreuve est pas quelque chose de facile. Qu'en est-il de la première tentation, les versets suivants? Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus était parfaitement homme et il avait des besoins physiologiques comme nous. J'ai regardé un petit peu ces histoires de combien de temps on peut survivre sans manger. Il paraît qu'il y a une règle de trois, une règle des trois, des trois trois, il y a les trois trois. Maximum 3 minutes sans respirer, maximum 3 jours sans boire, maximum 3 semaines sans manger. Et là, on est à 40 jours, on est à deux fois 20 semaines. Quand on mange pas, au bout de 3 jours, on a fini nos réserves de sucre et le corps commence à entamer les réserves de graisse et à peu près, suivant, très variable, suivant les réserves que chacun a, mais au bout de 20 jours, les réserves de graisse sont épuisées et le corps commence à puiser dans sa réserve de protéines, dans les muscles. Et là, ça devient très, très, très sérieux. 40 jours sans manger, c'est terriblement long. C'est terriblement long. On a, peut-être vous avez comme moi l'image du film Jésus où cette scène est représentée. Mais l'acteur là, il n'a pas passé, quand il joue, 40 jours sans manger. Ça fait des dégâts, 40 jours sans manger. Et l'évangéliste Matthieu rapporte qu'à la fin de cette période, les anges sont venus pour servir Jésus. Ils devaient avoir besoin terriblement d'assistance médicale à ce moment-là. Ils devaient être en piètre état, ils devaient être en lambeaux. 40 jours, c'est terriblement long. Jésus peut comprendre nos souffrances. Dans notre corps, les épreuves par rapport à nos besoins physiologiques qui sont pas remplis, qui sont insatisfaits, qui peuvent être très multiples. Et là, dans ces circonstances-là, Satan vient le tenter. De quelle manière? Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle se change en pain. Est-ce de la moquerie? Mets-toi en colère. Pète un plomb. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la provocation? Vas-y, prouve qui tu es. Regarde dans quel état tu te trouves maintenant. Ouais, vas-y. Ou est-ce que c'est une incitation à ce que Jésus mette lui-même fin à l'épreuve, qu'il utilise ses super pouvoirs pour sortir de cette épreuve, pour qu'elle s'arrête, pour qu'il y ait enfin de la nourriture? Qu'est-ce que recherche Satan? Peut-être un petit peu tout cela. Est-ce que nos tentations à nous ressemblent des fois à celles-là? Est-ce que nous entendons des fois, quand nous sommes dans les difficultés, les épreuves, la petite voix qui nous dit, ben, ah, dans quel état tu es, toi, hein, qui es chrétien, bien-aimé de Dieu, regarde. Qu'est-ce que l'on répond à cette voix qui nous provoque, qui veut nous faire sortir de nous-mêmes, qui veut nous faire aller dans la rébellion? Jésus, lui, il répond en citant la parole de Dieu. Et en cela, c'est un exemple pour nous aujourd'hui. Il cite le livre de Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 6. Je vais marquer ma page de Luc, on va y revenir et on va aller voir Deutéronome. Toutes ces citations sont tirées de Deutéronome. C'est le livre de la loi de Moïse. Deutéronome 8, versets 2 à 6. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu connaissais pas, que n'avaient jamais connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme vit de tout ce qui sort de la bouche, pas de l'Éternel et pas de pain seulement. L'épreuve a une finalité, il y a un objectif, et c'est pour ça qu'il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut l'accepter. Il y a quelque chose que Dieu va nous apprendre à travers cela, comme il a appris aux Israélites dans le désert. Alors peut-être que nous sommes dans le désert ce matin, ou depuis très longtemps, ou depuis peut-être que nous sommes dans l'épreuve. Peut-être reconnaissons-nous Satan qui vient ajouter par-dessus, comme si c'était pas suffisant. Il vient pour nous faire perdre le bénéfice de l'épreuve. Il est méchant. Il veut que on soit contre Dieu. Il veut qu'on se rebelle. Ou il veut qu'on réagisse d'une façon qui ne va pas glorifier notre Dieu. Alors, citons la parole de Dieu. D'accord, il faut la connaître, il faut la lire, mais ça vaut vraiment la peine. La deuxième tentation, on n'est plus dans des besoins physiologiques. Je lis versets 5 à 8. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le trône, ça la croix. Autre épreuve, autre tentation, faire des raccourcis. Jésus avait une destinée, il était le Messie, il était le fils de David, celui qui devait régner sur le monde entier. Il était aussi le fils de Joseph, celui qui devait souffrir, le serviteur de l'Éternel, qui devait être méprisé, rejeté, souffrir, mourir, puis ressusciter pour qu'enfin il puisse recevoir le royaume. la destinée de Jésus. Et nous aussi, nous avons une destinée. En 2 Timothée 2, 11, 13, je vous le lis, ne me cherchez pas. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui, avec Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Jésus. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier lui-même. Nous aussi, nous avons des promesses d'un avenir glorieux, régner avec Jésus-Christ. Alors là, il est question des centres de pouvoir de l'époque. Quels étaient ces centres de pouvoir? Bon, on pense à l'Empire de Rome, bien sûr, mais il devait y en avoir d'autres que Satan a fait défiler devant les yeux. Les centres de pouvoir contemporains, on les connaît, hein, toutes ces places fortes financières, toutes ces pentagones, ces choses dont on connaît le nom, des centres de pouvoir. Alors, pour Jésus, pourquoi ne pas accepter cette proposition, le trône sans la croix? Si Jésus avait été, il avait pris ses royaumes à ce moment-là, mais il aurait pu faire des choses, il aurait pu agir pour le bien de l'humanité, il aurait pu faire toutes sortes de bienfaits. Et c'est une tentation peut-être qui peut nous arriver aussi pour nous, d'être tenté par le je peux avoir ceci maintenant plutôt que je peux avoir autre chose plus tard, quelque chose de meilleur plus tard, ou quelque chose que je connais, que je peux toucher, je peux l'avoir maintenant. Faire un petit compromis pour avoir une bonne place. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Si le Seigneur était aux commandes, le monde serait meilleur et plus juste. Pourquoi a-t-il refusé cette proposition? Non, il avait quelque chose d'autre en vue. On peut tricher pour avoir un concours. Cela me permettra d'avoir une bonne place. Cela me permettra de faire du bien à ma famille. Ou bien, voilà, je passe outre la consultation de mon épouse ou de mon époux. Voilà, je fais ça, je sais que c'est bien. Je fais des raccourcis. Je prends le pouvoir au lieu de le recevoir de Dieu. Mais tout ça a un prix, bien sûr. La compromission a toujours un prix. Jésus répond... Il est écrit, Deutéronome chapitre 6, verset 13 à 5, face à cette tentation d'avoir la gloire tout de suite, une gloire humaine tout de suite, plutôt que la gloire céleste plus tard. Deutéronome 6, 13. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez pas vers d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait vite au-dessus de la terre. L'avertissement est sévère. Rencontre PLP à Toulouse, j'ai rencontré un pasteur, bon, je dirai pas son nom, mais il a renoncé à une belle carrière Il avait fait de belles études, de brillantes études, et il a renoncé à tout ça pour faire pasteur dans une église. Et les années sont passées, il nous disait, quand je vois ce que sont devenus mes collègues de promotion, les places qu'ils ont, toute l'aisance qu'ils ont, moi il me manque rien, mais entre eux et moi, c'est la nuit et le jour. Le renoncement, ça a un prix. L'argent donne le pouvoir. On pourrait demander à Vladimir Poutine sa recette pour cela. En 2007, Vladimir Poutine a dit ça à Sarkozy. Ou tu arrêtes de tenir ce discours, ou je peux faire de toi le roi de l'Europe, ou je t'écrase. Ou tu arrêtes, je fais de toi le roi de l'Europe, ou tu t'écrases. Je ne sais pas ce qu'a fait Monsieur Sarkozy, mais Jésus-Christ, lui, a choisi d'être écrasé. Il a choisi d'être écrasé par Satan. Rester fidèle à un prix élevé de renoncement. Même dans les petites choses de la vie, tout ce que je pourrais faire avec l'argent de la dîme, quand j'y pense, toutes ces années, quelle somme ça représente? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? On vivrait mieux. Mais devant qui devons-nous nous prosterner? Et donc la tentation peut être très forte de vouloir arriver à la case trône sans passer par la case croix. Et comment Jésus a résisté à cette tentation en citant cette interdiction formelle de Dieu que de se prosterner, s'allonger devant autre Dieu que lui. Et donc Jésus ne s'est pas allongé devant notre ennemi, mais il a supporté. L'épreuve qui était devant lui, la croix, pour avoir ce trône. Troisième tentation, neuf. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième tentation, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai? La tentation du doute après le désir d'avoir la gloire, la tentation d'avoir la gloire sans la croix, la tentation du doute maintenant. Quand Satan utilise la parole de Dieu pour nous faire chuter, les dangers de tordre la parole de Dieu. Satan cite le psaume 91, c'est très intéressant. Il cite le psaume 91, oui, mais comment il le cite et comment il l'interprète. Un très beau psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de la zoleur, de la peste, de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, il trouvera un refuge sous tes ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils se prosterneront, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors jette-toi dans le vide. Vous avez peut-être remarqué à la lecture que le verset 11 est tronqué. Il manque une partie. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Et si on regarde le contexte, verset 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et verset 15, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Le psaume 91 s'applique à ceux qui sont dans la voie du Seigneur, ceux qui suivent la voie. Seigneur, ceux qui suivent le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus était dans la voie du Seigneur en supportant l'épreuve des 40 jours passés dans le désert. S'il avait sauté dans le vide, il sortait de la voie du Seigneur qui était avec lui dans la détresse. Il n'aurait été plus dans cette voie et le psaume 91 n'était pas applicable. Le texte de Matthieu et de Marc souligne que les anges sont effectivement intervenus pour Jésus un petit peu plus tard. Jésus n'a pas été abandonné et le psaume 91 a été accompli, mais quand Dieu l'avait prévu. Satan a donc se jeté à la vide, n'a rien à voir avec le psaume 91. Et l'attaque de Satan, quelle est-elle? Si tu es fils de Dieu, Satan veut que Jésus prouve son identité. Et si tu es vraiment fils de Dieu, vas-y, montre-le, prouve-le. Jette-toi dans le vide, on va voir si le psaume 91 s'accomplit ou pas. Satan aussi veut attaquer notre identité. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Voilà, ça doit se voir, montre-le. Ça se voit pas, il faut le prouver. Il faut te le prouver. Que tu es enfant de Dieu, ou bien il faut que Dieu le prouve que tu es enfant de Dieu. Et ainsi, on commence à mettre Dieu à l'épreuve. On inverse les rôles. Dieu, est-ce que ce que tu dis est vrai? Prouve-le-moi. Et on est en grand danger. 1 Jean 9, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, c'est pas par naissance, ni de la volonté de la chair, c'est pas par ses propres forces, ni de la volonté de l'homme, c'est pas à l'aide d'un Poutine ou de quiconque d'autre puissamment placé. Celui qui devient enfant de Dieu, c'est de la volonté de Dieu lui-même. Dieu parle, il faut le croire simplement et croire ce qu'il dit. Cette histoire de mise en doute de ce que Dieu dit à un précédent très célèbre dans le jardin d'Éden. On relit les trois premiers versets de Genèse. Je vais les relire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Ève, ici, n'a pas cité correctement ce que Dieu avait dit. Parce que le de peur, il n'y était pas. Vous mourrez, point. Il n'y avait pas d'alternative possible. Et Satan se faufile dans l'intervalle. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je veux te rassurer. Le cœur se trouve dans le doute que Satan a introduit. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Et c'est une tentation qui peut arriver facilement, douter de la bonté de Dieu envers nous. Est-ce que c'est vrai, finalement? Surtout quand on est dans les épreuves, quand les tuiles nous tombent dessus, la foi peut être ébranlée. Comment lutter contre le doute? Jésus, il a cité Deutéronome, toujours, chapitre 6, verset 16, toujours dans les mêmes passages. Et c'est très intéressant d'aller voir. S'il cite Deutéronome, c'est qu'il y a des choses à aller voir dans le texte du Deutéronome. Et là, le texte dit, Deutéronome 6, 16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Qu'est-ce qui s'est passé à Massa? Massa, c'est Exode chapitre 17, vous pouvez me chercher. Exode chapitre 17, verset 1. De quoi Jésus parle? De quoi la parole de Dieu parle? Quand elle dit, vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sim, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple se trouva, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire 3 jours. C'est la détresse quand on n'a pas d'eau. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent, donne-nous à boire de l'eau. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif et murmuré contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple encore un peu, il me lapide? L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fut ainsi aux yeux des anciens d'Israël et donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté, parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Le Seigneur a mis simplement fin à fermer la bouche de Satan simplement en citant, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Et c'est quelque chose qu'on doit s'interdire, que de mettre Dieu à l'épreuve. Il est Dieu, nous sommes des créatures, et il ne faut pas inverser les rôles. C'est lui qui nous met à l'épreuve, ce n'est pas nous qui le mettrons à l'épreuve. lui. Il est Dieu. Comment lutter contre le doute, dont ne jamais mettre Dieu à l'épreuve? Je pense qu'il faut l'interdire, jamais. Je fais une caricature. J'arrive à un carrefour avec la voiture. Bon, j'arrive au carrefour. Si le feu passe au vert et que j'ai pas besoin de m'arrêter, je saurai que Dieu m'aime. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut être tenté de faire ça, on peut être tenté de demander à Dieu des preuves, des tests. Il nous a laissé sa parole et on doit avoir la foi. S'efforcer de bien la comprendre, de bien comprendre les textes pour pas être trompé par notre ennemi quant au sens de ce qu'ils veulent dire, et croyant simplement ce que Dieu a dit. C'est ce qu'on appelle la foi. Le verset 13 marque la fin de l'épreuve pour Jésus. Peut-être la fin de votre épreuve aussi. Je vois que j'ai été long du coup. Oh là là, j'ai pas vu l'heure passer. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Les épreuves ont une fin. 1 Corinthiens 10:13. Il n'y a aucune épreuve ou tentation qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés, tentés au-delà de vos forces, mais il prévoit le moyen d'en sortir. Ça, c'est le verset 13 et le verset 12, juste avant. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Satan, tant que le Seigneur est pas venu, Satan va toujours revenir nous déranger. La victoire n'est pas définitive. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6:13. Alors la parole, en conclusion, nous a parlé relativement aux épreuves de notre corps. On ne les recherche pas, mais il faut les accepter. Ne pas écouter les moqueries et les provocations de Satan, mais d'avoir confiance en Dieu parce qu'elles ont une finalité, même si on ne la comprend pas. La parole nous a parlé des épreuves relatives à notre aspiration de gloire. La croix est avant le trône. La fidélité de Dieu passe avant toute chose. Et Jésus nous a montré l'exemple pour résister aux doutes par rapport aux promesses de Dieu, bien comprendre sa parole et ne pas suivre l'exemple de Adam et Ève, mais suivre l'exemple de Jésus qui a été obéissant. Merci Seigneur pour cet exemple que tu nous laisses, permet qu'il nous fasse grandir et nous aide dans notre vie et dans notre marche quotidienne. Merci parce que tu es un Dieu qui nous comprend, qui intercède au Seigneur. Tu es le souverain sacrificateur qui intercède auprès du Père, et que tu es compatissant avec nous parce que toi-même, tu es passé par l'épreuve et la tentation, et tu sais ce que c'est, et tu nous comprends parfaitement, et tu nous aides et tu nous soutiens. Merci Seigneur de ta présence avec nous dans l'épreuve, de ce que tu nous accompagnes, de ce que tu es là, et nous te demandons Seigneur, s'il le faut, mais si tu peux ne pas nous mettre dans les épreuves et dans les tentations Seigneur, mais surtout que tu nous délivres du péché. Dans le nom de Jésus. Amen.